Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Et on est ensemble jusqu'à 20h avec dans un instant l'info, le retour de Christophe Lamar pour le journal. Juste après, ce sera le débat du Club des idées. Les confinements ont profité au marché du bricolage qui a enregistré une croissance de 13% l'an dernier. Les plus jeunes et les femmes aussi s'y sont mises. Et pas seulement pour faire des économies. C'est une passion française dont nous parlerons à partir de 19h20 avec mes invités. Dans sa carte blanche du jour, Julia de Funès reviendra sur l'idée d'instaurer une journée mémorielle pour les morts du Covid. La philosophe n'y est pas favorable. Mais d'abord, le point sur l'info tout de suite avec vous, Christophe Lamar. Vous êtes bien sur Europe 1, il est 19h.
Au mois d'avril à Paris, nous avons moins de doses qu'au mois de mars. On ne pourra pas vacciner toutes ces catégories de personnes supplémentaires avec de moins en moins de doses.
Ils ont 60 ans et ils peuvent se faire vacciner depuis ce matin. Problème, ils ne peuvent pas, pas assez de doses. Reportage dès le début de ce journal.
Et à partir de demain, ce sera le tour des enseignants, des policiers, des gendarmes. En tout, 400 000 personnes âgées de plus de 55 ans et particulièrement exposées au virus.
Début de marche arrière à l'éducation nationale. Les étudiants de BTS qui ne pourront pas faire valider leur diplôme auront droit à une session de rattrapage.
On efface tout à Strasbourg. La ville ne financera pas la future mosquée. L'association turque qui avait demandé une subvention préfère renoncer.
Le Royaume-Uni se prépare à dire adieu à son prince. Les obsèques du prince Philippe auront lieu demain à Windsor. Et puis exercice militaire grandeur nature aux États-Unis, Français, Britanniques et Américains réunis pour des manœuvres de grande ampleur. L'œil de Didier François dans ce journal.
Anissa Haddadi, un petit peu moins de gelée demain matin, ça c'est une bonne nouvelle.
Oui, les températures vont se radoucir alors tout doucement et très légèrement. Nous aurons toujours des valeurs négatives sur les régions centrales, mais un petit peu moins que ces derniers jours. Elles disparaîtront dimanche. Dans le sud, ça va se gâter. Demain, je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La crise sanitaire se stabilise à un niveau élevé, mais la campagne de vaccination franchit encore un cap supplémentaire. Près de 12 millions de personnes ont reçu au moins une première dose. Et depuis ce matin, les plus de 60 ans avec ou sans comorbidité peuvent aussi se faire vacciner, à condition d'avoir les doses. Johanna Chabas, c'est ce que vous avez constaté dans le centre de vaccination du 15e arrondissement de Paris. Il y a du retard à l'allumage.
Oui, dans cette mairie d'arrondissement, la vaccination des personnes de 60 à 69 ans n'a même pas pu commencer. Béatrice, 61 ans, qui habite dans le quartier, comptait beaucoup sur aujourd'hui pour enfin être vaccinée. Mais elle n'a même pas réussi à prendre rendez-vous.
J'avais regardé depuis le début de la semaine si je pouvais prendre rendez-vous. Il n'y a aucun rendez-vous. J'ai réessayé aujourd'hui puisque c'était ouvert aux plus de 60 ans. Toujours pas de rendez-vous. Aucune possibilité d'en prendre un, même à moyen terme. Voilà, aucune visibilité.
La faute à des sites de réservation pris d'assaut. Impossible d'avoir un rendez-vous à Paris avant une dizaine de jours. Mais pour Philippe Goujon, maire du 15e arrondissement, le problème, c'est surtout le manque de doses.
Au mois d'avril à Paris, nous avons moins de doses qu'au mois de mars. On passe de 40 000 doses hebdomadaires à 30 000 doses pour tout Paris. Déjà, ce sont des quantités qui sont très faibles et en plus, elles sont diminuées ce mois-ci. On ne pourra pas vacciner toutes ces catégories de personnes supplémentaires avec de moins en moins de doses.
Autre problème, selon lui, 2/3 des vaccins dans son centre sont maintenant destinés à des rappels des deuxièmes doses, ce qui ralentit forcément le rythme des primo-injections.
Merci Johanna Chabas. Les plus de 60 ans donc, depuis ce matin, à condition qu'il y ait, on l'a bien compris, suffisamment de doses. Demain, ce sera au tour des enseignants, des policiers, des gendarmes. Au total, 400 000 personnes de plus de 55 ans exposées au Covid.
Alors le retard à l'allumage dans ce centre parisien ne doit pas masquer une réalité. La vaccination accélère, plus de 450 000 injections par jour. La couverture vaccinale qui reste cependant encore relativement faible. Près de 23% de la population majeure a reçu une première dose. Le taux passe à 8% pour deux doses.
L'affaire avait fait beaucoup de bruit. La colère des étudiants de BTS a finalement été entendue jusque dans les couloirs du ministère de l'Éducation nationale.
On rappelle que ces étudiants étaient obligés d'être présents physiquement dans leur école pour passer l'examen final. Covid ou pas, c'était zéro pointé en cas d'absence, même pour cas de force majeure.
Alors, il y aura finalement une session de rattrapage, ce qui n'était pas prévu au départ. Frédéric est étudiant en BTS, assistance technique d'ingénieur. Il fait partie du collectif BTS en détresse qui demandait une réponse au gouvernement. Eh bien, cette proposition ne le satisfait pas.
Déjà, avoir une deuxième chance, c'est très important. Mais après, depuis le début, en fait, ce qu'on veut, c'est un contrôle continu. Parce qu'en fait, moi, ça fait depuis un an que j'ai passé 15 jours en entreprise. Depuis le mois d'octobre, je suis en visioconférence tous les jours pour mes cours. Donc, en fin de compte, j'ai suivi difficilement les cours. On a eu des professeurs absents, des problèmes de connexion. Et en fait, on n'est pas à jour du tout. Donc, on va arriver à l'examen avec des lacunes, avec complètement une inégalité. une inégalité des chances.
Frédéric, étudiant en BTS et membre du collectif BTS en détresse, il répondait à Virginie Riva. À Strasbourg, on peut parler de rebondissement dans l'affaire de la mosquée.
La ville ne subventionnera pas sa construction. L'association d'origine turque Miligorus, qui défendait ce projet, a décidé de renoncer elle-même à cette demande de subvention municipale. La maire de Strasbourg l'a annoncé ce matin et mis un terme à la polémique, Mélina Fachin.
L'association turque Miligorus renonce en effet aux 2,5 millions d'euros que la mairie était prête à lui verser. Cet argent, à lui seul, n'aurait pas suffi à poursuivre les travaux, comme l'explique Jeanne Barzéguian, la maire de Strasbourg.
Ce qui a le plus changé, c'est en fait le refus des collectivités région Grand Est et collectivités européennes d'Alsace de financer le projet. De fait, ça déséquilibrait le plan de financement. Et donc, l'association m'a adressé hier un courrier me disant qu'à ce stade, ils retiraient leur demande de subvention.
Jeanne Barzéguian souhaite maintenant éteindre la polémique. Elle estime n'avoir commis aucune faute politique, mais elle regrette l'ampleur qu'a pris cette affaire, les critiques virulentes du gouvernement. Quant à l'avenir de la mosquée Eyüp Sultan, il est incertain. Le chantier, commencé il y a plus de 3 ans, est bien engagé, mais loin d'être terminé. L'association, qui n'a pour l'instant pas répondu à nos sollicitations, va sans doute devoir trouver d'autres financements pour ériger la plus grande mosquée d'Europe. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
Et maintenant une question à 160 milliards d'euros. Que vont faire les Français de leur épargne accumulée ?
Alors on rappelle que ces 160 milliards d'euros, évidemment, c'est l'épargne accumulée depuis le début de la pandémie. Eh bien l'enquête de l'IFOP apporte un début de réponse. Ils vont l'investir dans l'immobilier. 28% des sondés dépenseront en priorité leurs économies pour acheter un appartement ou une maison. 23% envisagent d'acheter une voiture. Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour le gouvernement qui voudrait s'appuyer sur ce surplus d'épargne pour doper la reprise.
Europe 1, Isabelle Millet.
Restez avec nous dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1. Didier François nous parlera du plus grand exercice militaire de ces 35 dernières années.
Et puis le Royaume-Uni prépare ses adieux au prince.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
19h08, c'est la suite du journal de Christophe Lamarre sur Europe 1 et le Royaume-Uni se prépare donc à dire adieu au prince Philippe décédé la semaine dernière à 99 ans.
Les obsèques auront lieu demain, mais dans un cadre restreint. Elles se dérouleront dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Mais c'est devant leur télévision que les Britanniques pourront suivre cette cérémonie d'adieu. Pas à Windsor donc, et pas devant Buckingham Palace, et cela en peine beaucoup Anaïs Cordoba.
Nazareth est venue déposer une gerbe de fleurs au pied de Buckingham pour le prince Philippe. Demain, elle regardera les funérailles à la télévision, faute de cérémonie d'hommage national.
C'est vraiment dommage. Les gens pourraient au moins partager ce moment, cet hommage. Mais on ne peut pas à cause de la pandémie. Ça me rend très triste.
Christie, venue spécialement du nord de l'Angleterre pour les funérailles, compte se rendre devant Buckingham demain, bravant l'interdiction de se réunir devant les résidences royales.
On aurait quand même bien aimé voir une procession pour pouvoir lui rendre hommage. Il était une figure publique, alors quelque chose aurait dû être organisé pour nous. Nous, le public, nous sommes ceux qui soutenons la famille royale, qui leur donnons leur importance.
Mais d'autres Anglais, comme Phil, approuvent cet enterrement intime qui correspond aux souhaits du défunt prince.
Il était discret, il ne voulait pas de cérémonie en grande pompe. Je pense qu'il serait content de cette cérémonie réduite à cause du Covid. Il ne voulait pas de chichi.
Demain, le cercueil du prince Philippe sera accompagné à la chapelle Saint-Georges dans les jardins du château de Windsor par une procession composée uniquement de militaires et de membres de la famille royale. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Aux États-Unis, Uber est en panne de chauffeurs. La plateforme de VTC promet des bonus pour attirer les candidats.
Et le leader mondial du secteur a un gros problème. Le métier n'attire plus. Pire, il l'agit même comme un repoussoir chez les candidats potentiels. La faute à des rémunérations trop faibles. Uber promet d'augmenter les revenus de ceux qui souhaitent reprendre ou reprendre le volant. L'entreprise va y consacrer une enveloppe de 250 millions d'euros.
Attention, attention, ceci n'est pas un exercice. En fait, si, heureusement, c'en est un. Mais l'ampleur de cette manœuvre militaire a de quoi impressionner.
C'est l'exercice le plus important depuis 35 ans. Il réunit les armées de terre françaises, américaines et britanniques. L'exercice s'appelle Warfighter et il s'achève aujourd'hui aux États-Unis.
Et on en parle forcément avec notre spécialiste des affaires internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Une manœuvre d'une telle ampleur au sein de l'OTAN, ça n'était pas arrivé depuis, c'est simple, la fin de la guerre froide.
Absolument, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cet exercice est aussi important, parce qu'il faut imaginer ce que c'est que l'engagement de 3 divisions appartenant aux 3 principales armées occidentales. C'est énorme. Le poste de commandement déployé pendant 15 jours à Fort Hood, au Texas, c'était 450 officiers capables de faire manœuvrer près de 60 000 hommes avec les chars, les canons, les munitions, toute la logistique que ça implique, ordinateurs, communication, eau, essence. France et la chaîne sanitaire des hôpitaux de campagne en mesure de retraiter, potentiellement, des milliers de blessés et des centaines de morts parce que l'idée de cet exercice était de jouer un scénario au plus près des conditions réelles d'une guerre. C'est bien de cela qu'il s'agit, d'un affrontement conventionnel avec un État disposant d'une armée parfaitement équipée et entraînée. C'est cela l'objectif de Warfighter, préparer les principales forces de l'OTAN à encaisser conjointement la possibilité d'un choc frontal avec une puissance étatique hostile. Une hypothèse de conflit malheureusement redevenue tout à fait crédible dans un futur à seulement quelques dizaines d'années.
On serait donc entré dans une période de durcissement des affrontements militaires.
Et là, c'est en tout cas le constat partagé par la France, les États-Unis et le Royaume-Uni qui observent un effort important de réarmement chez tous nos adversaires potentiels et surtout une attitude de plus en plus décomplexée des puissances émergentes comme la Chine, la Russie, la Turquie ou l'Iran qui n'hésitent plus à recourir à la force en appui de leurs ambitions. Alors que sur les 20 dernières années, depuis en fait le 11 septembre 2001, les Occidentaux étaient plutôt polarisés par la menace terroriste qui, elle, demande quand même un engagement de moyens bien plus légers que ceux nécessaires pour mener une bataille conventionnelle. Un exemple, l'opération Barkhane au Sahel, c'est 5000 hommes. La 3e division française qui est mobilisée pour Warfighter, c'est 5 fois plus. Il faut donc entraîner nos officiers à manœuvrer à une telle échelle, à s'approprier les savoir-faire de ce que le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Thierry Burkhard, appelle le combat de haute intensité face à un ennemi aux moyens très conséquents, en tout cas très supérieurs à ceux des groupes armés terroristes. Et c'est la raison pour laquelle tous les stagiaires de l'école de guerre de l'armée de terre ont fait le déplacement aux États-Unis malgré le risque de Covid et qu'un nouvel exercice sera mené en France en 2023 à l'échelle d'une division, il s'appellera Orion, et ça sera la première fois depuis le dernier exercice en 1987 qui répondait au doux nom de Moineau Hardy.
Oh, on adore
l'œil, les Allemands.
L'œil de Didier François, spécialiste des questions internationales, tous les soirs dans ce journal de 19h. Merci beaucoup Didier. Les États-Unis qui vont peut-être parvenir à un terrain d'entente après les expulsions croisées de diplomates. Moscou d'y voir d'une manière positive, en tout cas, la proposition de Joe Biden d'organiser un sommet à deux avec Vladimir Poutine.
Allez, le sport, encore une médaille pour le judo français. Amandine Buchard est sacrée championne d'Europe dans la catégorie des moins de 52 kilos. Elle sera l'une des chances françaises de médaille aux Jeux de Tokyo. Le football, un rappel, la 33e journée de Ligue 1. Le leader Lille reçoit Montpellier, coup d'envoi à 21h. À suivre en fil rouge sur Europe 1. Et puis le tennis, Stefanos Tsitsipas retrouvera Daniel Evans en demi-finale du Masters 1000 de Monte-Carlo. Et en ce moment, eh bien vous avez Rafael Nadal sur le court face à Andrei Rublev. Et c'est compliqué pour l'Espagnol qui vise une 12e victoire ici à Monte-Carlo parce qu'il a perdu la première manche et qu'il est breaké dans la deuxième. Attention, ça ne va pas bien pour Rafael Nadal.
Ah oui, on disait qu'il était favori encore. Bon, on va suivre ça.
Bon, enfin, attendez, hein, ça, c'est entre, au milieu, oui, c'est en trois manches, oui. On ne sait jamais.
Il va se rattraper. Merci beaucoup Christophe Lamar. Très bon week-end à vous. La météo, Anissa Adadi, j'aime beaucoup la petite phrase de lancement que vous venez de me donner en entrant. Le week-end commence sous le soleil.
Ah oui, dès qu'il y a le mot soleil, ça vous plaît, ouais. Hein, Isabelle. Bah, comme à tous, hein, effectivement. Alors, comme ces derniers jours, nous avons demain un début de journée assez ensoleillé sur pratiquement tout le pays. C'est dans le sud, en fait, que le ciel est le plus capricieux, avec des Pyrénées jusqu'à la Côte d'Azur et même en Corse, une instabilité qui apporte... C'est vrai que ça fait quelques jours, hein, pour vous qui êtes dans le sud... Ça fait quelques jours que vous avez des nuages gris au-dessus de la tête. Eh bien, demain, vous aurez en plus de ça de la neige à partir de 1000 mètres dans les Pyrénées où on attend 10 cm de neige fraîche. Et puis, tout le long du pourtour méditerranéen, il va pleuvoir des averses très fréquentes tout au long de la journée avec même des coups de tonnerre du côté du Var. Dans l'après-midi, la pluie va se décaler direction la Corse. Et là aussi, dans le sud-ouest de la Corse, on pourra avoir quelques coups de tonnerre partout ailleurs, sur toutes les autres régions. Nous avons un temps plus calme avec un ciel qui alterne entre soleil et nuages. Les températures, alors nous avons encore des gelées. Hein, demain matin, moins 4 à Aurillac, moins 3 à Montluçon, moins 2 à Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, 1 degré à Nantes, 4 à Paris et Bordeaux et 8 à Nice. Ça va se calmer les gelées dès dimanche. Et puis dans l'après-midi, on aura 10 à 17 degrés. La semaine prochaine, profitez-en. Jusqu'en milieu de semaine, ça va être pas mal.
Bon, merci beaucoup Anissa. On vous souhaite un excellent week-end.
Bon week-end.
19h15 sur Europe 1. Dans un instant, sortez vos perceuses, vos ponceuses et vos pinceaux. On dépoussière l'image du bricolage. Mais d'abord, c'est la carte blanche du jour.
La Caisse d'épargne vous présente la carte blanche. Caisse d'épargne, vous être utile. Europe Soir, Isabelle Millet.
Je vous demande de vous arrêter.
Et je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Et ce soir, c'est Julia de Funès qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Julia.
Bonsoir Isabelle.
Alors le député écologiste Mathieu Orphelin a suggéré, via une proposition de loi, l'organisation d'un hommage aux victimes du Covid-19 tous les 17 mars. Il dit que dans toute civilisation, eh bien, quand quelqu'un est mort, il faut prendre du temps, un moment où on s'arrête, où on se recueille en parlant de lui. Mais vous, vous trouvez l'instauration de cette journée mémoriale chaque année infondée. Pourquoi, Julia ?
Alors, pour trois raisons principalement. La première, c'est que cet argument est vrai à titre privé, bien sûr. C'est vrai à titre public quand des personnes sont mortes pour la nation ou par un acte à dimension politique et sociale, des attentats par exemple. Mais pour un virus, ça me semble très différent. Aussi triste et tragique que soit cette époque, on ne rend pas hommage à des morts de manière publique quand la cause de la mort n'a rien de politique ou de militaire. Sinon, pourquoi ne pas rendre un hommage aux morts du cancer, du sida ou de la grippe ? Donc ce faux argument est une confusion, me semble-t-il, un mélange des genres. C'est faire d'un rituel privé essentiel, un cérémonial public qui n'a aucune raison d'être politique. Deuxièmement, c'est une proposition de loi démagogique au sens où elle utilise l'émotion compassionnelle pour mieux se faire unanimement partager. C'est une instrumentalisation par la sensibilité, si vous voulez. Le raisonnement sous-jacent qu'on entend derrière cette proposition est le suivant. Personne ne pourra renoncer à ce projet de loi sans se montrer insensible et inhumain, donc mon projet ne pourra faire que l'unanimité.
Et le fameux député, hein, Mathieu Orphelin, il ajoute « Nul doute que cette proposition de loi fera consensus à l'Assemblée comme au Sénat ».
Voilà, ça confirme ce que je viens de dire, mais être sensible à cette période dramatique, prendre conscience du drame, se souvenir des morts, ce qui me semble bien sûr incontestable à faire, n'implique pas de verser dans cette facilité juridique démagogique qui trahit une irresponsabilité. Et c'est la troisième raison qui m'empêche d'adhérer à ce projet. Ces bons sentiments remplacent, à mon sens, la responsabilité politique véritable. Il est en effet plus facile de décréter une journée de mémoire que d'assumer ses responsabilités politiques, c'est-à-dire de trouver des moyens d'accompagner les personnes mourantes, de ne pas les laisser mourir seuls sous prétexte d'une procédure hygiéniste. L'hommage aux disparus rehausse la bonne conscience de certains et réconforte leur ego, mais il ne pèsera pas lourd face à la honte qui nous rongera le cœur d'avoir ajouté à l'angoisse de la mort la détresse de la solitude.
Et donc votre conclusion, Julia ?
Pour conclure, c'est que le temps politique ne me semble pas être à l'organisation d'une commémoration, mais à l'urgence d'une responsabilisation. La responsabilité qu'on a et le plus grand respect qu'on doit aux personnes mourantes de ce virus, ce n'est pas de se souvenir d'elles dans 20 ans et collectivement, mais c'est d'être là, à leur côté, individuellement et maintenant. Autrement dit, proposer une journée de commémoration est une façon facile de se mettre en avant tout en restant inactif. Ce n'est finalement qu'un narcissisme drapé de bonne conscience.
Eh bien, merci beaucoup. C'était la carte.
Ce soir.
Oui, vous étiez énervée. Carte blanche ce soir de Julia De Funès. Merci beaucoup, Julia.
Merci, Isabelle. À bientôt.
C'était la carte blanche avec la Caisse d'Épargne. 3000 experts au service des professionnels et des entreprises. Caisse d'Épargne, vous êtes utile. Europe 1. Isabelle Millet.
Dans un instant, on ouvre notre débat et notre boîte à outils. Le bricolage, une passion française qui fédère désormais toutes les générations et tous les sexes. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
19h20, bienvenue dans votre grand débat sur Europe 1. On s'intéresse ce soir au bricolage, un marché boosté par la crise. Il a vu l'an dernier ses ventes augmenter dans des proportions assez folles pour dépasser les 30 milliards d'euros, tout circuit de distribution confondu. 55% des Français déclarent aujourd'hui bricoler. On en parle ce soir avec Romy Oudguiri, sociologue et directeur de Sociovision. C'est une division de l'IFOP spécialisée dans les tendances de consommation. Avec Virginie Pez, spécialiste en stratégie des marques. Et avec Philippe Moiti, professeur d'économie à l'Université Paris 7 et cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation. Bonsoir, bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je le disais, le marché du bricolage a connu des records en 2020, après déjà une très belle année 2019 qui s'était conclue par une croissance des ventes. C'était même la plus belle année à l'époque depuis 2007. Et bien sûr, le confinement, ou plutôt les confinements, sont très liés, Romy Oudguiri, à ce boom du bricolage.
Oui, tout à fait. Les confinements ont vraiment été propices. Nous, on a enquêté sur ce phénomène. 46% des Français, lors du premier confinement, ont bricolé. Et lors du second confinement, ça a été 41%. Donc, il y a une petite baisse, mais ça s'est maintenu à un haut niveau parce que lors du second confinement, il y a eu plus de gens qui sont allés travailler. Et ce qui est très intéressant, c'est que les jeunes en particulier, il y a la moitié des 25-34 ans qui ont en quelque sorte découvert ou qui se sont initiés au bricolage pour la première fois lors de ces confinements. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que la période très, très étrange que nous sommes en train de traverser produit finalement des nouveaux profils de bricoleurs. Et il est intéressant de voir que, alors au-delà de ça, vous l'avez rappelé, cette tendance s'inscrit dans des mouvements de fond. C'est-à-dire que depuis plusieurs années maintenant, dans notre société, il y a un certain nombre de gens qui ont envie de faire par eux-mêmes des choses. Alors, il y a plusieurs motivations. Il y a une motivation économique, évidemment. C'est-à-dire que les gens ont besoin de faire des économies. Et donc, c'est plus simple de bricoler soi-même quand on a un problème chez soi. Et puis, il y a également de plus en plus l'envie de s'émanciper des intermédiaires traditionnels, de faire vraiment soi-même. Surtout dans une société où on a le sentiment qu'avec la numérisation de nombreuses pratiques, on se sent un peu dépossédé. Et bricoler, pour beaucoup de gens, c'est accomplir quelque chose. Et donc, le confinement a accéléré cette tendance. Et évidemment, je pense que c'est vraiment une tendance d'avenir parce que la maison, dans la période qu'on est en train de traverser, redevient le centre de la vie. Et il y a énormément de gens qui ont envie de la décorer, de l'aménager, de construire d'autres espaces. Et donc, ça va encore porter le phénomène, je pense, pour les années qui viennent.
Oui, c'est ça. Le recours massif au télétravail nous a fait prendre conscience aussi de l'importance d'aménager nos intérieurs, notre cocon. Il faut dire aussi, Philippe Moati, hein, on a commencé à l'évoquer, que tous les signaux étaient au vert. Il y avait la conjoncture qui était favorable parce qu'on était obligé de rester chez soi. On avait un peu plus d'argent à dépenser parce qu'on n'allait pas au resto, pas au cinéma. Et puis, on avait aussi beaucoup plus de temps disponible. Hein.
Beaucoup plus de temps et puis beaucoup plus de temps à la maison de surcroît. Et donc on a eu le temps de voir tout ce qui n'allait pas dans la maison, tout ce qu'on a envie d'améliorer. On risque de vous surprendre. On a posé une question lors d'une de nos enquêtes sur la manière dont les Français ont vécu le premier confinement. On leur a demandé de donner une note allant de moins 5 s'ils n'ont pas du tout aimé, jusqu'à plus 5 s'ils ont beaucoup aimé le confinement. Donc il y a évidemment une grande dispersion dans les réponses, mais la moyenne est à 1,8. C'est-à-dire que majoritairement, les Français ont plutôt apprécié cette expérience. Oui. Et quand on leur demande pourquoi, en listant un certain nombre d'activités ou de choses qu'on a pu faire pendant cette période-là, eh bien, arrive en premier, c'est pas notre sujet, manger à la maison, c'est quand même intéressant, mais très vite derrière, c'est passer plus de temps à s'occuper de son appartement ou de sa maison. Donc on savait que déjà avant la crise sanitaire, les Français investissent massivement psychologiquement dans leur habitat, pour un tas de raisons sur lesquelles on va peut-être revenir, mais ça a été un paroxysme durant cette crise sanitaire. La maison, c'était un peu le cocon protecteur par rapport à un extérieur dangereux. C'était le lieu où la famille s'est retrouvée. On a eu du temps à passer en famille. Hein. Et donc, on a eu envie de l'investir là, physiquement, hein, en l'améliorant. En plus, effectivement, on avait le temps. Certains avaient les ressources. Mais je crois que là, il faut être un tout petit peu prudent. Hein. Nos enquêtes nous montrent qu'il y a quand même un tiers des Français qui a subi une dégradation de sa situation financière à cause de la crise. Et donc, pour eux, effectivement, le bricolage, d'ailleurs, ça peut être une manière, ça a été dit, hein, de faire des économies. Et à l'autre extrémité du spectre, on est plus haut d'ailleurs dans l'échelle sociale, on a plutôt accumulé de l'épargne parce qu'on n'a pas pu dépenser comme on le fait d'habitude. Et cette épargne, elle s'est trouvée disponible pour financer des projets qu'on avait peut-être en tête, hein, mais qu'on remettait à plus tard parce qu'il y avait d'autres priorités, par exemple partir en vacances ou changer sa voiture. Et bien là, on a sauté le pas, quoi. Donc, quelque part, on a les deux motivations qui cohabitent sur des populations assez différentes, hein. Une population qui va bricoler un peu par nécessité, parce que la contrainte budgétaire s'adurcit, et une autre qui profite de cette manne qui est un peu tombée du ciel pour réaliser des travaux d'embellissement ou de transformation de la maison, d'autant plus nécessaire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qu'il fallait changer.
On vient de parler du
télétravail, il faut aménager le logement pour le télétravail. Il y a eu de tout, hein. Les enseignes de bricolage nous disent que c'est à la fois le coup de peinture pour rafraîchir une pièce jusqu'à la transformation. Le marché de la piscine, par exemple, se porte extrêmement bien, quoi.
Alors justement, on aura dans un instant un responsable d'une enseigne de bricolage. Au premier confinement, la fermeture des commerces, elle a fait chuter le chiffre d'affaires de ces magasins de façon assez spectaculaire. Mais dès la réouverture des enseignes, Virginie Pèze, la demande de nouveau a dopé les ventes. Hein.
Oui, exactement. Effectivement, on a eu une demande qui, dès la réouverture des enseignes, a été croissante. Et je pense que c'est lié au fait que le bricolage, finalement, ça a été un des seuls loisirs encore accessibles, finalement. Et là où le bricolage était avant quelque part une corvée, effectivement, monsieur le disait, pour des raisons économiques, on allait faire soi-même plutôt que de faire appel à des professionnels. Ben là, on se rend compte qu'il y avait une vraie dimension plaisir et que, quelque part, les gens étaient pratiquement en recherche d'activités, peut-être à faire en famille, avec leurs enfants, avec leurs conjoints, pour occuper leur temps, pour effectivement, monsieur Moati le disait, embellir son intérieur, le transformer, le rendre agréable dans cette période de télétravail ou de période où on est, voilà, c'est plus un lieu de passage, hein, notre maison c'était devenu, notre lieu de vie. Et donc effectivement, c'est pour toutes ces raisons que les ventes ont explosé.
Alors, c'était très intéressant ce que vous nous disiez tout à l'heure, Romy Oudguéry. Parmi ces bricoleurs qui ont boosté les ventes, on a vu apparaître des nouveaux profils et surtout beaucoup de consommateurs plus jeunes. Vous disiez quoi ? Quelle tranche d'âge ? 26 ?
Oui, c'est surtout les jeunes actifs.
Les jeunes actifs. Les jeunes actifs plutôt urbains, plutôt...
Oui, enfin, dans toutes les... Surtout les urbains, beaucoup, mais un peu dans tous les milieux. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que c'était pour eux vraiment une découverte. En fait, il faut bien voir que pour les jeunes en particulier, qui traditionnellement sortent énormément, hein, c'est un phénomène assez classique d'étape de la vie. Hein, à cet âge, on est plutôt dehors que dedans. Et là, étant assignés à résidence de façon durable, eh bien, ils ont redécouvert non seulement le bricolage, mais ont découvert la vie domestique, hein, la cuisine pour certains, le rangement, le tri, etc.
Mais ça veut dire que c'est fini le cliché, ce sont les retraités qui bricolent.
Alors, je pense que les stéréotypes ont la vie dure, comme toujours, mais il est évident que déjà depuis quelques années, il y avait une féminisation des bricoleurs, ça c'était un phénomène qu'on voyait, et qui correspondait au fait que les femmes étaient de plus en plus indépendantes, prenaient leur indépendance, beaucoup vivent seules, s'assument seules, ou même dans le couple ont envie de garder cette autonomie. Et bien maintenant, donc ça commençait un petit peu à briser le stéréotype masculin, et là avec la jeunesse qui arrive, je pense que oui, je pense qu'il y a de la fin de la crise, enfin, une fois qu'on sera sorti, j'espère, de cette crise, on va s'apercevoir qu'il y a un certain nombre de choses qui auront bougé dans la société. Vous avez parlé du télétravail, le rapport au travail va changer. Et le rapport au bricolage, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous ceux qui s'y intéressent, pour tous les professionnels et les enseignes, parce que avec aussi dans la société française un phénomène, alors Philippe Moitié a parlé de cocon, c'était, la maison était depuis longtemps un cocon, mais maintenant elle est en train de devenir un chantier, elle est en train de devenir une ruche, et puis elle est en train de devenir un sanctuaire. C'est-à-dire qu'elle a pris beaucoup de fonctions, et évidemment dans toutes ces fonctions, le bricolage devient une activité déterminante.
Bien, on va poursuivre ce débat dans un tout petit instant sur Europe 1. On verra notamment que de plus en plus d'influenceurs surfent, vous verrez, sur cette passion française du bricolage. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
19h31, c'est la suite de votre débat sur Europe 1. Sans surprise, les confinements ont rendu les Français plus sensibles à leur logement et ont permis au marché du bricolage d'atteindre des sommets l'an dernier, plus de 30 milliards d'euros. On continue d'en parler avec mes invités. Rémy Oudguéry, sociologue et directeur de Sociovision, c'est une filiale de l'IFOP spécialisée dans les changements de comportement. Virginie Pez, qui est spécialiste en stratégie des marques et maître de conférences à l'Université Paris 2. Et puis Philippe Moitié, professeur d'économie à l'Université Paris 7 et cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation. Alors autrefois, quand on avait besoin de faire des travaux chez soi, on appelait un professionnel avec plus ou moins de succès et parfois même des mauvaises surprises, comme Muriel Robin.
Vous êtes carreleur, vous carrelez très bien, mais vous carrelez trop. Trop, beaucoup trop, beaucoup trop, je vous le dis, trop, trop. Quand je vous ai dit s'il en reste, vous les mettrez dans la chambre, je parlais des cartons, c'est-à-dire qu'on prend les cartons, on les met dans la chambre. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a carrelé la moitié de la chambre. Moi, de toute façon, je crois même pas que ça soit possible. Il a mis tous les cartons, c'est-à-dire que j'ai moitié carreau, et derrière, ça part tranquille en moquette.
Ça marche toujours aussi bien. Muriel Robin qui se moque gentiment des professionnels du bricolage. Alors, je ne sais pas si c'est pour éviter ce genre de déboire, mais le fait est que les Français aujourd'hui préfèrent s'y coller tout seuls et pas seulement les papas et les papis. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, toutes les générations prennent du plaisir à peindre, à retaper, à rénover, à faire de son chez-soi un lieu de vie agréable. Et les jeunes sont de plus en plus nombreux à s'y mettre. On l'évoquait également, boostés notamment par les influenceurs. Car oui, au même titre qu'il y a des influenceurs mode, beauté ou sport, il y a des influenceurs bricolage. Comme vous, par exemple, Philippe, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez 33 ans, c'est ça ?
C'est correct.
Et donc, vous êtes youtubeur bricolage. Vous avez même deux chaînes YouTube. On va vous faire un peu de pub. Visser Malin et Atelier Malin, c'est ça ?
C'est exact.
Alors, qu'est-ce qui vous plaît tant dans le bricolage, Philippe ?
Moi, je ne m'y suis pas mis par passion. C'est-à-dire que ça a été plutôt, à la base, un besoin, une nécessité, dans le sens où mon premier projet de bricolage, c'était aménager une entrée qui était un petit peu exiguë, sur laquelle je ne pouvais pas mettre des meubles classique du commerce, donc il a fallu faire du sur-mesure. Et à cette époque-là, on n'avait pas les moyens, ma femme et moi, de prendre quelque chose qui aurait été fait par un artisan. Donc ça a été plus une contrainte à la base, mais en pratiquant, je me suis rendu compte que c'était une vraie source de satisfaction d'avoir fait des choses soi-même. Et doucement, petit à petit, j'ai continué à progresser à force de faire des différents projets.
Et c'est devenu une passion pour vous ?
Alors c'est complètement une passion, tellement que moi j'ai arrêté mon travail précédent pour en faire mon métier à temps plein.
Parce que c'est votre métier du coup, youtubeur.
Du coup maintenant, okay, youtubeur c'est mon métier, ouais.
Génial. Vous proposez des tutoriels, comment ça se passe ? Des formations aussi ?
Ouais, tout à fait. Donc nous, on fait beaucoup de tutoriels sur Internet de manière à pouvoir toucher le plus grand nombre et à aider finalement les gens à se lancer dans la pratique, à prendre déjà du plaisir à faire leurs meubles. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, parce qu'il y en a aussi qui ont envie d'apprendre rapidement et qui ont envie de faire des projets assez compliqués rapidement, ben on a aussi des programmes d'accompagnement qui nous permettent du coup de les emmener plus loin et plus profond dans la pratique.
Alors, je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'on a dit en première partie de l'émission, mais vous constatez, vous, que les bricoleurs, effectivement, sont de plus en plus jeunes aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Alors, il y a aussi... je pense qu'il y a deux raisons à ça. La première, c'est que l'information, elle est beaucoup disponible sur YouTube pour pouvoir bricoler, pour apprendre à bricoler. Et ça, c'est aussi une plateforme sur laquelle il y a un petit peu plus de jeunesse, je pense. Et l'autre raison, c'est que, bah, entre guillemets, les jeunes aujourd'hui, ils ont envie de se faire plaisir et de pas avoir qu'un travail peut-être aussi. Et le bricolage, c'est une source de satisfaction personnelle. Et c'est aussi pour ça, je pense, que ça attire beaucoup
les jeunes. Plus jeunes. Et un public de plus en plus féminin également ?
Oui, alors nous, c'est vrai qu'en formation, ça va peut-être vous surprendre, mais on a au moins 30-35% de femmes qui participent à nos formations pour être capables de bricoler, de faire leurs meubles de A à Z seules, sans avoir besoin d'accompagnement ou de quelqu'un qui va les aider. Et elles veulent cette autonomie, elles veulent cette capacité de faire leurs meubles sur mesure, comme elles l'entendent, avec leurs idées. Et c'est souvent, chez l'agente féminine, l'idée qui guide.
Elles savent ce qu'elles veulent, les femmes.
Se faire plaisir, exactement.
Quelles sont les vidéos qui marchent le plus ? J'ai vu que vous cartonnez, par exemple, avec les jardinières.
Ouais, tout à fait. Alors là, en plus, on est pile poil dans la saison. En plus, on organise dans quelques jours, là, le week-end du 1er mai, un défi pour inciter les gens à faire une jardinière. Et c'est vraiment un super premier projet parce que c'est un projet qui est assez accessible à la mise en place. Et c'est extrêmement utile dans cette saison où on va essayer peut-être de faire un petit peu du potager sur son balcon ou dans son jardin, où on a envie d'avoir quelques aromates pour l'été. Et effectivement, pour nous, c'est la jardinière qui cartonne le plus. Ouais.
Et votre chaîne, elle a cartonné aussi donc, pendant le premier confinement, deuxième confinement ?
Alors, beaucoup le premier confinement, effectivement, parce que les gens étaient chez eux, ils avaient beaucoup de temps à passer. Et YouTube, je pense, a été un environnement dans lequel beaucoup de gens ont passé du temps. Et donc, effectivement, nous, ça nous a permis de rencontrer plein de nouveaux abonnés. Et là, depuis... En fait, moi, j'ai du mal à estimer si c'est simplement la croissance de la chaîne qui fait qu'on a plus de monde ou si c'est le deuxième confinement. En tout cas, le premier confinement a été significatif. Ouais. Après, un petit peu moins pour nous.
En tout cas, suffisamment de personnes qui vous suivent pour que vous en viviez. Hein, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Moi, ça m'étonne toujours, mais c'est formidable. Tant mieux pour vous. C'est quoi ? C'est avec les pubs que vous arrivez à vivre ?
Alors non, effectivement, en tant qu'influenceur, youtubeur, la publicité, c'est pas quelque chose qui nous permet d'avoir des fonds. Et nous, si on arrive à gagner notre vie, parce qu'on est deux, c'est grâce aux formations qu'on propose et grâce, voilà, c'est la valeur qu'on propose, effectivement, c'est les formations payantes. Okay. Tout à fait.
Merci Philippe. Rémi Houdguiri, vous aviez envie de réagir à ce témoignage de Philippe ?
Oui, tout à fait, parce qu'il y a vraiment une révolution silencieuse qui est en train de se produire dans notre pays, hein, dans le domaine du bricolage, mais au-delà, c'est effectivement l'influence de cette sphère de YouTube et aussi des tutoriels. C'est très important d'avoir ça en tête. Il y a désormais 74% des Français qui utilisent les tutoriels. C'est une évolution de 10 points en seulement une année. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens désormais s'émancipent, vont chercher eux-mêmes leur mode d'emploi, peuvent essayer, puisqu'il y a une manne d'informations incroyable sur la toile. Et donc, ça leur permet véritablement de se lancer dans plein d'activités. Et le bricolage, je pense, bénéficie de ça. Ça veut dire évidemment, pour les enseignes en face, la nécessité de réagir, parce qu'il y a actuellement une bataille de l'expertise du bricolage, hein, parce que dans ces tutos, il y a de boire et à manger. Mais voilà, il y a un apprentissage.
Donc là, vous donnez la parole très gentiment à Virginie Pesse, qui est en face de vous. Alors, elles réagissent comment, justement, les enseignes ?
Oui, je pense qu'elles sont obligées de s'adapter, parce qu'effectivement, on n'est plus du tout sur la cible qu'on imagine du papy qui va bricoler au fond de son garage à la campagne. On est vraiment sur, on l'a dit, une cible qui est beaucoup plus jeune, plus féminine, plus urbaine aussi. Et du coup, les marques, elles se sont à la fois emparées de cette tendance-là et puis elles y ont aussi participé, dans le sens où elles ont créé toute une ligne de produits qui est faite spécialement pour ces cibles-là, avec des outils qui sont plus simples, qui sont plus faciles, qui sont plus légers, qui sont plus faciles à utiliser dans des espaces réduits.
Et à ranger dans un petit appartement.
Absolument. Il y a même des services de location maintenant de ces outils. Et donc, elles participent quelque part à cette tendance, elles la soutiennent, de démocratiser ou de rendre beaucoup plus accessible, en tout cas, le marché du bricolage.
Philippe Moiti, est-ce que les jeunes bricolent différemment ? On dit qu'ils sont davantage tournés vers l'économie circulaire et responsable. responsable, vers la seconde main pour ne pas surconsommer ?
Oui, enfin, faut pas généraliser. Effectivement, il y a une surreprésentation de cette tendance chez les jeunes, mais on peut pas dire que tous les jeunes s'engagent dans cette direction. Nous, ce qu'on observe dans nos enquêtes, c'est effectivement que les jeunes ont comblé une partie de leur retard par rapport à leurs aînés. Ils sont quand même toujours un petit peu en retrait, hein, par rapport aux plus âgés. Le pic, hein, de proportion de bricoleurs, c'est dans la tranche des 50-65 ans. Donc, c'est pas les papis, mais on n'en est pas loin quand même.
Les
surtout,
papas.
oui, c'est les papas, si vous voulez, les grands-papas. Mais, surtout, les jeunes sont classés plutôt dans la catégorie des bricoleurs occasionnels et des bricoleurs peu expérimentés. Voilà. Donc en fait, ils font quelque part leurs premières armes. Et puis c'est plus rarement chez eux une passion que chez leurs aînés. Donc c'est vrai que eux, plus que les aînés, ne serait-ce que parce qu'ils débutent, hein, par effet d'âge, hein, ont besoin d'être accompagnés dans cette démarche.
Mais justement, ça peut être un moment de partage exceptionnel entre générations, le bricolage.
Ça peut être ça, mais c'est vrai que ça passe quand même beaucoup aujourd'hui par les réseaux sociaux, ça passe aussi par les enseignes spécialisées qui offrent beaucoup de supports pédagogiques, y compris dans leurs magasins, on peut prendre des cours. Hein. Par contre, pour les un peu plus âgés, ceux qui sont déjà en couple et avec des enfants, c'est souvent une activité qu'on pratique en famille. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important, ça contribue aux gratifications qu'apporte cette activité, et évidemment le plaisir de faire soi-même, hein, la fierté du résultat, c'est très important dans les motivations, et les motivations économiques dont on a déjà parlé, mais faire avec sa famille, c'est sortir du quotidien, hein, c'est vivre des expériences en commun. Donc ça fait partie du charme de la chose. Et c'est pour ça d'ailleurs que la proportion de bricoleurs est plus élevée dans les ménages où il y a des enfants.
Où il y a des enfants, oui.
Voilà. Parce que le besoin objectif est plus important. Et puis parce que c'est une activité qu'on mène en commun.
Rémi Oudguéry, c'est intéressant ce que vient de dire Philippe Moiti. Ça donne de l'importance aussi aux enfants, ne serait-ce que si on leur demande par exemple de repeindre un vieux coffre à jouer. On a tout à gagner en fait à faire ça, hein.
Oui, tout à fait. Il y a une dimension de convivialité, sachant qu'en effet, ça reste quand même plus les 35, 45, 50 ans qui le font plus, pour une raison très simple, c'est que souvent, ils sont propriétaires en fait, de leur logement, et donc ils ont à cœur de l'aménager, de le personnaliser, là où les plus jeunes ne sont pas encore dans cette logique-là. Après, il faut bien voir que dans les mois qui viennent, quand on va sortir de cette crise, il va y avoir d'abord un phénomène de rattrapage de la vie sociale, c'est-à-dire que les jeunes là, qui ont bricolé pendant le premier confinement et un peu moins pendant le second, je pense qu'il faut...
Ils vont recommencer à sortir, on l'espère pour eux, évidemment.
Et donc ça va baisser un petit peu, donc ne prêtons pas trop d'espoir. Ça reste quand même une activité qui reste une activité d'une personne plutôt mûre, qui a déjà une certaine une expérience et une propriété à aménager.
Bien. Bah écoutez, je vous propose qu'on poursuive ce débat dans un tout petit instant. On a encore plein de choses à dire. On sera notamment en ligne avec un responsable de l'enseigne Leroy Merlin, pour ne pas la citer. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
19h42, suite de votre débat sur Europe 1 consacré ce soir, vous le savez, au bricolage. Quelle satisfaction de se dire, c'est moi qui ai posé ce parquet. Comme on peut se dire, c'est moi qui ai fait ce risotto. Les bricoleurs sont de plus en plus nombreux, de plus en plus jeunes et de plus en plus féminins. On continue d'en parler avec Rémi Oudguéry, sociologue et directeur de Sociovision, Virginie Pez, spécialiste en stratégie des marques, et Philippe Moiti, professeur d'économie à l'Université Paris 7 et cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation. Le bricolage, on l'a vu, c'est un marché très important. Alors comment les commerces se sont-ils adaptés à ce boom ? En ligne avec nous, en direct, Guillaume Perraudeau, vous êtes en charge du service relations clients au Leroy Merlin d'Avignon. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir en direct sur Europe 1. On imagine que votre enseigne, elle a dû aussi, bien sûr, s'adapter à l'évolution de cette passion française.
Tout à fait, même si les premiers cours de bricolage, nous, on les a créés, on a déjà fait un premier test en 1991, donc on a été déjà un petit peu précurseur sur ce sujet-là. Mais en effet, on a dû s'adapter à l'évolution de nos clients et surtout à leur demande, en fait.
Alors, de quelle façon ?
Eh bien, tout simplement avec les cours que l'on proposait. J'entendais tout à l'heure l'intervention du YouTuber.
Oui.
Nous, ça a été tout simplement le fait de créer des nouveaux cours en fonction de leurs demandes. Donc, tout simplement de se dire, la première chose, c'était, ça fait quelques années qu'on faisait des cours en présentiel et le confinement a fait qu'on a dû s'adapter et passer sur un mode un petit peu plus digitalisé pour répondre aux attentes de nos clients.
C'est-à-dire qu'on proposait des ateliers virtuels, c'est ça ?
C'est exactement ça, tout à fait. On propose des lives Facebook, des lives Instagram, des tutos sur YouTube, des cours en visio. Les clients s'inscrivent sur une plateforme et tout simplement, après, derrière, ils ont un intervenant, Leroy Merlin, un professionnel, qui est là et qui adapte le cours en fonction des attentes de son client.
Vous le disiez, hein, ça fait quelques années déjà que les enseignes de bricolage s'adaptent à ces nouvelles tendances qui ne sont pas nouvelles, hein, même si elles ont été amplifiées par l'effet confinement. Par exemple, aujourd'hui, on peut aller dans une enseigne de bricolage avec sa planche pour la découper soi-même sur place, par exemple, avec du matériel qui est prêté.
C'est exactement ça. En sortie de magasin, sortie d'achat, peu importe, vous arrivez avec vos produits et on met à disposition des outils pour les rendre autonomes. Et il y a toujours la possibilité d'avoir quelqu'un pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous conseiller. C'est vraiment ça l'idée, c'est d'être au plus proche de nos clients pour répondre à leurs attentes.
Virginie Pez nous disait tout à l'heure que les enseignes aussi s'adaptaient même au niveau du matériel. C'est-à-dire qu'on essaye de faire des outils, des objets qui sont un peu plus adapté peut-être, un peu moins lourd, un peu plus facile à utiliser. Vous nous confirmez ça ?
Oui, je vous confirme. Je ne sais pas si vous vous rappelez des outils qu'avait votre papa ou vos grands-parents, mais c'était des vieux outils bien lourds,
bien rouillés.
bien rouillés. Voilà. Maintenant, ils sont d'autant plus performants, beaucoup plus légers, sur batterie. Vous l'avez dit vous-même, que l'on peut ranger dans un petit placard. Donc, les marques, elles ont cette notion-là de rendre le bricolage accessible à tout le monde, que ce soit à des femmes, à des hommes, des personnes de 26 ou 55 ans.
Philippe, vous êtes toujours avec nous en direct ?
Oui, toujours.
YouTubeur, Instagrammeur, Internet joue un rôle évident hein, dans tout ça, on vient de l'entendre. Est-ce que vous avez des bricoleurs qui, une fois que vous leur avez donné le cours, vous postent leurs images, vous montrent leurs réalisations, vous font partager ce qu'ils ont réussi à faire grâce à vous ?
Ah ben oui, complètement. Nous, en fait, dans le cours de bricolage, on se rejoint tous les 15 jours où on a un atelier ensemble pour échanger justement sur les évolutions, sur les questions que les stagiaires peuvent avoir. Et effectivement, régulièrement, on a ce genre de retour. On a déjà eu le retour d'un des stagiaires qui s'appelle Pierre, qui a fait une table à manger pour chez lui. Et il nous racontait qu'il avait invité du monde pour manger et que les gens avaient demandé « Où est-ce que tu l'as trouvé cette table ? Elle me plaît bien et j'aimerais bien avoir la même. » Et quand il nous a raconté ça, il y avait une émotion extraordinaire.
C'est moi qui l'ai fait. Oui, c'est vrai que
exactement,
ça doit faire
plaisir. Des vraies sources de motivation, quoi.
Oui. Philippe Moiti, ils sont fiers, hein, les bricoleurs, de leur réalisation, comme on poste sa tarte aux pommes, on poste aujourd'hui des photos de ses exploits de bricoleur. Ça fait partie aussi du jeu.
Tout à fait. On a réalisé une étude sur les pratiques de loisirs des Français récemment. On a listé une vingtaine de pratiques, dont le bricolage. Et on a notamment demandé aux gens, pour les différentes activités, qu'est-ce qu'ils ressentaient pendant qu'ils exerçaient cette activité. Et pour le bricolage, on a un bricoleur sur deux qui nous dit qu'il éprouve du plaisir, d'une part, et à peu près la même proportion qui nous dit ressentir un sentiment d'accomplissement. Vous voyez, on se réalise pendant qu'on fait. Alors évidemment, en plus, quand c'est fini, on est fier du résultat, mais pendant qu'on fait, ça génère des gratifications positives. Donc ça contribue quelque part au bien-être. D'ailleurs, on a montré que parmi les gens qui sont satisfaits de leur existence et qui sont en situation d'équilibre psychologique, il y a une plus forte proportion de bricoleurs. Alors, je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet, mais de manière plus générale, on sait que tous les loisirs où on fait quelque chose, on produit quelque chose, de matériel ou d'immatériel, c'est corrélé au sentiment de bonheur et au sentiment d'avoir une vie à peu près équilibrée. Donc c'est quand même, quelque part, se faire avec ses mains, produire quelque chose, ça contribue, c'est un élément, un ingrédient de la recette du bonheur.
Rémi Oudguiri, c'est fort ce qu'il nous dit Philippe Moiti, c'est un ingrédient de la recette du bonheur. Le bricolage, ça a vraiment des effets bénéfiques sur notre morale ?
Oui, parce que le bonheur vient du sentiment de contrôler sa vie, en fait. Et c'est vrai qu'on vit dans une société, et là ça s'est aggravé avec la période qu'on traverse, où on a du mal à se projeter dans l'avenir, où on a du mal à se dire que ce qu'on fait au jour le jour a un impact sur la société dans son ensemble. Les gens ne croient plus trop à ça, en réalité. Et le bricolage, c'est une des activités qui permettent d'avoir un impact sur sa vie concrète, de se dire voilà, je fais quelque chose pour moi, ça fait plaisir à moi-même bien sûr, mais aussi à ceux qui m'entourent. Vous avez parlé des enfants tout à l'heure, à ma famille, et ça me permet vraiment de m'accomplir, comme l'a dit Philippe Moiti. Je pense que c'est vraiment un point important. C'est le retour finalement du faire soi-même dans notre société, qu'on avait un peu oublié ces dernières décennies, et qui revient en force. Et je pense que plus on va aller vers l'avenir, et plus il va y avoir envie. Alors, ça passe par le bricolage, mais une autre des conséquences du confinement, ça a été que beaucoup de gens ont bricolé du numérique. Il y a aussi les bricoleurs du numérique. Ça, c'est un autre sujet vous a...
C'est-à-dire mais... quoi, on répare son ordinateur
on... Non, non on
qu'est-ce que vous appelez bricoler du numérique
des, on bricole des vidéos, on bricole
ah oui,
des...
D'accord, etc. Okay.
Oui, mais c'est intéressant, parce que c'est aussi une forme nouvelle de bricolage.
Effectivement. Guillaume Perraudeau, vous êtes toujours en ligne avec nous du Leroy Merlin d'Avignon. J'ai oublié de vous demander quels sont les rayons qui ont le plus progressé. Je dis quincaillerie parce que j'imagine que la quincaillerie, sans doute...
Alors, oui, pas forcément la quincaillerie en fait. On a vu une évolution depuis cette année en trois phases. Au début, les clients venaient pour plutôt du petit dépannage. Donc en effet, la quincaillerie en faisait partie. Après, ils sont venus à faire des travaux légers. Et après, comme disait un intervenant tout à l'heure, on est venu à prendre du plaisir dans nos magasins et à venir aller chercher une nouvelle salle de bain, une nouvelle cuisine, un nouveau jardin. C'est les rayons qui ont le plus performé cette année. Les rayons où on passe le plus de temps dans la maison.
Merci Guillaume Perraudeau. Virginie Pez, j'imagine que les ventes en ligne aussi ont été carrément boostées hein, par le confinement et cette nouvelle passion.
Oui, absolument. Les ventes en ligne ont été complètement boostées et on voit même que l'approche des marques a été différente. Avant, quand vous alliez sur un site de bricolage, vous alliez au rayon des perceuses en ligne et puis vous avez tout l'éventail des perceuses qui étaient proposées. Aujourd'hui, les marques, elles ont plutôt tendance à rentrer par le besoin du client. C'est plus « j'ai besoin d'une perceuse », c'est plutôt « j'ai besoin d'accrocher un tableau sur mon mur ». Et à ce moment-là, vous présentez une perceuse, mais aussi peut-être du scotch double face ou quelque chose qui va vous permettre d'accrocher votre tableau pourvu qu'il ne soit pas trop lourd. Donc, on a aussi des marques qui essayent de recréer quelque part sur l'univers du digital ce qu'on peut vivre en magasin où on va avoir un conseiller qui va nous expliquer comment répondre à notre besoin. Mais voilà, on mise beaucoup plus sur l'expérience qui va avec cette dimension de plaisir qu'on évoquait tout à l'heure que sur le produit en tant que tel.
Alors, puisque vous êtes la seule femme autour de moi ce soir, je voulais vous poser cette question puisqu'on a dit que les femmes, effectivement, elles aussi, comme les jeunes, s'étaient mises pas mal au bricolage. On dit souvent qu'elles sont plus patientes. C'est une qualité, ça, dans le bricolage.
Alors oui, c'est sans doute effectivement une qualité du bricolage. Et je pense que ça va aussi avec la volonté des femmes d'être plus indépendantes, d'être plus autonomes, de savoir faire les choses par elles-mêmes. Qui a sans doute contribué à cet essor-là. Et puis, je pense qu'il ne faut pas aussi négliger le rôle qu'a pu avoir la télé et le panorama audiovisuel dans cette tendance-là. Puisque,
il y a beaucoup d'émissions aujourd'hui sur le bricolage.
Exactement, oui. Il y a beaucoup d'émissions. Et souvent, elles sont portées par des figures féminines.
Oui,
en fait,
hein, on pense à Valérie Damidot, évidemment, qui est la pionnière de la vulgarisation du bricolage, qui a d'ailleurs, elle aussi, monté sa chaîne YouTube. Je vous conseille d'aller jeter un œil, parce que comme à la télé, elle nous apprend plein de choses sans se prendre au sérieux. Et elle dit d'ailleurs que le premier conseil, c'est de s'amuser. Elle a bien raison, public plus féminin. Donc là encore, il y a certains clichés qui tombent, même si moi j'ai plutôt des amis, je ne sais pas vous, mais des amis IES qui bricolent que des amis IS. Je voulais poser une question encore, le revers de la médaille, est-ce que finalement ça n'est pas que les activités des artisans, elles ont chuté l'an dernier, évidemment on ne les oublie pas, on pense à eux, est-ce que cette nouvelle passion française, elle ne risque pas de leur faire perdre des clients, Rémi Houdguéry?
C'est le risque à l'évidence, hein, mais ça veut dire simplement qu'il y a une pression qui est mise. Alors, il y a la pression conjoncturelle de la crise sanitaire, mais à plus long terme, il est évident que les artisans eux-mêmes doivent réagir. Mais je pense qu'ils ont tous les moyens de réagir parce qu'il y a une demande d'expertise. Simplement, il va falloir répondre à une autre demande qui est celle de la transparence. Parce que souvent, les artisans sont soupçonnés, pour certains, de ne pas être transparents dans leurs prestations. C'est parfois compliqué, etc. Donc, mais je pense que les journées n'ont que 24 heures. Les gens ont plein d'activités à faire. Donc le bricolage, évidemment, ça dépanne et ça permet de faire des économies, mais je pense pas que les gens aient envie toujours de faire ça, donc ils vont avoir besoin à un moment donné, notamment pour des travaux de grosses œuvres, etc., de faire appel à des artisans, donc charge à eux de répondre à cette demande, et je pense qu'au contraire, la montée en expertise des Français sur le bricolage ne peut qu'être bénéfique à des plus experts qu'eux, puisque c'est un dialogue qui s'instaure, et ils peuvent les conseiller de façon plus experte, donc c'est ça l'enjeu de demain, c'est que les artisans répondent à ces nouvelles exigences.
Oui, parce qu'on s'est rendu compte aussi, hein, Virginie Pez, qu'on ne pouvait pas tout faire soi-même. Hein. Il y a des choses pour lesquelles on a besoin de spécialistes, d'artisans.
Voilà, il y a effectivement ça. Hein. Finalement, le bricolage, c'est aussi l'occasion d'entrer dans une dynamique qui va nous donner envie de potentiellement faire plus. Et puis, je voulais aussi souligner que bah, ça va être une chose de vendre, par exemple, un papier peint quand on va être une enseigne de bricolage, mais ça va être aussi autre chose de vendre la compétence nécessaire pour poser le papier peint. Donc, il y a aussi une autre source de valeur, finalement, sur ce marché, qui n'est pas liée au produit, mais qui est plutôt liée à comment je vais accompagner, comment je vais faire monter en compétence les clients pour qu'eux-mêmes trouvent les clés pour faire les travaux tout seul.
L'expérience et le savoir-faire qui sont indispensables aussi.
Exactement.
Merci beaucoup en tout cas à vous tous et ceux qui ne savaient pas trop quoi faire ce week-end confiné. À mon avis, ils vont repenser à cette émission. Merci à vous.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Europe 1. Isabelle Millet.
Dans un instant, on va ouvrir les archives d'Europe 1, 1985, la chanson pour l'Éthiopie. Je suis sûre que ça va vous rappeler des souvenirs. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Dans le Club des idées, on va maintenant plonger, comme chaque soir, dans les archives d'Europe 1. 3 minutes pour comprendre, pour éclairer l'actualité, ça s'appelle Le Jour Où.
De faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Europe 1.
Bonsoir Angèle Châtelier.
Bonsoir Isabelle.
Écoutez bien ces quelques notes, je suis sûre qu'elles vont vous dire quelque chose. Vous aurez reconnu la chanson « Éthiopie » par les Chanteurs sans frontières qui a été diffusée, Angèle, pour la toute première fois à la radio il y a tout juste 36 ans.
Et oui, à l'époque, l'Éthiopie connaît depuis 2 ans une famine sans précédent, comme le constatait cette infirmière sur place, interrogée par Europe 1.
Il y a eu des moments vraiment révoltants, et surtout quand les gens viennent s'accrocher à nous. Enfin, ils ne parlent pas, mais ils implorent, enfin, par les yeux, par le regard, ils implorent vraiment de la nourriture.
Renaud écrit alors une chanson appelée « Éthiopie » et réunit une quarantaine d'artistes pour l'incarner sous le nom, donc, Chanteurs sans frontières. France Gall, Jean-Jacques Goldman, Jacques Higelin, Michel Berger ou encore Julien Clerc, invité d'Europe 1 pour en parler en 1985.
Le seul engagement valable de nos jours, c'est les engagements pour les droits de l'homme ou quand il y a des hommes qui, comme c'est le cas en Éthiopie en ce moment, meurent par milliers par jour. Une chanson a été écrite, fort bien, je trouve, par Renaud, à la fois avec de la pudeur, mais en même temps, enfin, de façon artistique. Vous savez, je crois que tout peut se dire en chanson. Et simplement, il faut que ça reste une chanson et une œuvre d'art. Et là, c'est le cas. Il a fait une très bonne chanson et en même temps, j'espère, une chanson qui va toucher le cœur des gens et les sensibiliser sur un problème. Voilà pourquoi j'ai participé à ça.
Donnons-leur des lendemains en échange de rien. Donnons-leur la vie.
Et ça a marché, Angèle.
Oui, car le 45 tours de cette chanson s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Elle est même restée 8 semaines numéro 1 des ventes. Résultat, ce succès a permis de reverser des millions de francs à l'association Médecins sans frontières. Le 13 octobre 1985, les Chanteurs sans frontières donnent même un concert à la Courneuve. 80 artistes bénévoles se réunissent devant 15 000 personnes. Jacques Higelin y était.
C'est important de continuer parce qu'il y a besoin que l'aide continue. Et qu'elle soit rotative jusqu'à ce que ce problème soit, dit pas résolu parce qu'il est déjà bien entamé, mais au moins qu'il y ait du réconfort pour la suite.
La France n'est pas le seul pays, Isabelle, à avoir créé sa propre chanson pour aider l'Éthiopie. Il y a notamment eu l'Espagne, le Québec et les États-Unis avec leur chanson We Are the World, écrite par Michael Jackson et Lionel Richie.
Ça fait beaucoup de bien en tout cas de réécouter ces chansons. Merci à vous, Angèle Châtelier. Merci beaucoup.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, le rappel de l'actualité avec Romane Hockey. Et puis ce sera musique, bien sûr, avec vous, Émilie Mazoyer. Bonsoir, Émilie.
Bonsoir, Isabelle.
Quel programme pour ce soir?
Eh bien, comme tous les vendredis, on s'intéresse aux nouveautés, aux sorties, oui, aux découvertes, aux coups de cœur. Et il y a une jeune artiste, Lyonnaise. Parce qu'évidemment, Lyonnaise n'a rien à voir là-dedans. Lyonnaise, qui s'appelle Cassidy et qui fait une pop à la fois très actuelle et à la fois on sent qu'elle aime bien comme nous les années 60. Son album Les gens heureux va sortir le 14 mai et ce soir elle va venir nous en parler sur Europe 1. Elle s'appelle Cassidy.
C'est tout doux à l'heure de l'apéritif. Je vous souhaite une très belle soirée.
Merci,
belle émission
Émilie.
Bon week-end à tous. Lundi 18h, vous retrouverez Julien Bugier. D'ici là, on écoute Le Monde Changer, bien sûr.